Merci à vous. Alors, maintenant, c'est le tour de Jacques Yon, qui nous rejoint, donc qui est sociologue, qui est directeur de recherche au CNRS, voilà, et qui a été un des principaux animateurs du CRESAL. Voilà, avec de nombreux ouvrages sur les questions de travail social, de travailleurs sociaux. Et donc, c'est du CRESAL que vous nous parlez aujourd'hui, comme une instance de réflexion sur la situation, sur l'avenir du bassin stéphanois.
Bon, c'est une idée un peu bizarre. Les organisateurs de ces journées ont eu, pour parler du CRESAL, d'inviter quelqu'un qui n'est pas historien et quelqu'un qui était partie prenante pendant de longues années de cette instance. Il veut dire que le recul nécessaire est très faible. Donc, je n'ai pas pu avoir accès aux documents et donc je me fonderai sur des analyses qu'on avait faites déjà, mon collègue André Mihou et moi-même, et qui sont parus dans divers bulletins d'histoire. Alors, en 20 minutes, forcément, je vais être très schématique et donc mon propos sera très discutable. Je voudrais montrer que le rôle d'instance, d'intervention, de réflexion du CRESAL peut être limité de la fin des années 50 au tout début des années 70 et donc ne ouvre pas du tout l'ensemble de la période que l'on considère ici. Et pour me faire comprendre, je suis obligé de revenir en arrière et d'expliquer un petit peu les origines de cette instance. Donc, je parlerai d'abord de l'histoire et de la préhistoire. Excusez-moi, pour un sociologue, c'est bizarre. Ensuite, de la période, il me semble rentrer dans le cadre de l'intitulé de mon topo, et ensuite, je conclurai. Donc, l'histoire et la préhistoire, simplement pour dire que l'histoire du CRESAL n'est pas une histoire originale. Il y a eu de nombreux travaux, je pense à Bourdieu, Boltanski, Drouard, Amiot, Fourquet, etc., et ont montré qu'il y avait une résurgence de la tradition des enquêtes sociales lancée par Frédéric Leblay à l'extrême droite de l'échiquier politique à la fin du 19e siècle, dans cette période, il va des années 30 jusqu'au début des années 50. Et dans ce contexte-là, me semble-t-il, il faut replacer la création du CRESAL à la conjonction, il y a bien été noté par les historiens des sciences sociales, de deux courants principaux, un courant d'humanisme économique, on va dire, porté par des ingénieurs des grandes écoles, le groupe Esprit, par exemple, ou une partie du groupe Esprit, plus tard, d'une part, et puis d'autre part, alors, à Saint-Étienne, le représentant typique de ce courant-là, ben c'est Henault, le patron de Duhan, il est polytechnicien. Hein, et puis, le deuxième courant important, à la conjonction duquel se constituent plusieurs centres d'études et d'analyse dès la fin de la guerre, à Nantes, à Metz, à Lille, à Paris, à Marseille. Le deuxième courant, c'est le courant issu du christianisme progressiste. Je pense notamment à Économie et humanisme, créé à Lyon en 1942, avec cette particularité par rapport au premier courant porté par des ingénieurs des grandes écoles. Celui-ci, porté par des intellectuels, mais il s'installe, pour la plupart d'entre eux, en mission ouvrière, ils vont devenir des dominicains ouvriers à Marseille, à Nantes et à Saint-Étienne. C'est le maire Thomas Suavet. Il s'installe en usine. Et il me semble que la conjonction entre Thomas Suavet, dominicain installé en usine, et Jean Quenot, patron des établissements Duhan polytechnicien, symbolise assez bien, si vous voulez, la rencontre de ces deux courants. Sauf qu'à Saint-Étienne, particularité à ces deux courants principaux, il faut rejoindre un troisième, c'est la fraction chrétienne progressiste du mouvement ouvrier, celle qui est portée par la JOC, le MPF, le MNP, etc., et dont André Garnier, dont Jean-Claude Martin a parlé, est une figure sans doute essentielle. Hein. Le courant, il mènera à la transformation de la CFDC. Alors, il me semble qu'il faut se replacer dans le contexte des années immédiates d'après-guerre. On est plein dans le mythe du progrès. On est plein dans l'idée que la connaissance peut favoriser le développement économique et que la connaissance appuyée sur des chiffres peut être un instrument de transformation du monde social. Il me semble que c'est ce courant-là, si vous voulez, progressiste, mais il croit en la vertu de la science dès lors qu'elle est chiffrée. Il va jouer un rôle important dans la naissance de cette instance. Donc on pourrait dire, c'est assez rigolo à dire, on a une espèce de conjonction entre catholicisme social, marxisme, et puis statistique. On a parlé d'André Garnier, le CESAL est créé en 1958. Les gens d'économie et humanisme, et le groupe est constitué dès la fin des années 40, et André Garnier va être salarié de ce groupe. Il quitte donc la JOC, son poste de permanent JOC, si je ne me trompe pas, en 53, et il est embauché alors par une structure, donc, il s'appelle la SAGMA. Ça vaut la peine que je vous dise ce que ça veut dire, ça vous dira un petit peu l'esprit de l'époque. André Garnier est embauché par la SAGMA, société pour l'application du graphisme et de la mécanographie en analyse des complexes sociaux. Vous voyez, cette croyance que l'analyse statistique détaillée et le maniement de la statistique, en quelque sorte, pourra mieux nous faire comprendre ce qui se passe et en même temps aboutir à une transformation du monde social. Donc, le CESAL est créé en. J'en arrive à l'histoire même, et non plus à la préhistoire, est créé en 58, mais en fait, le groupe, il va le constituer d'emblée, on a parlé d'André Garnier, a travaillé en fait depuis 1944. Il a travaillé avec des financements nationaux, je pense à des financements venant de l'INSEE, venant de l'Institut national d'hygiène, c'est-à-dire l'ancêtre de l'INSERM, hein, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, sur des financements du ministère de la construction, et ceci sur des financements INED, l'Institut national des études démographiques, dont en quelque sorte les responsables de haut vont se faire enquêteurs pour des instituts d'ampleur nationale. De la même façon, la même opération va se produire à Nantes, à Marseille et à Metz, par exemple. Donc, on a là un vivier, si vous voulez, d'enquêteurs, principalement recrutés dans les milieux du MLP, du MPF, de la gauche ouvrière catholique. Ils vont constituer en quelque sorte les premiers enquêteurs du CESAL constitués en 58. Il est intéressant de noter que lorsqu'ils se constituent à la fin des années 50, c'est d'abord un pool d'économistes. Mais l'économiste, la formation d'économiste est disparue. Or, c'est en fait des enquêteurs, des syndicalistes, des statisticiens d'occasion, des comptables, ils s'occupent de statistiques. Et quand on regarde maintenant, alors c'est là où j'en viens à l'essentiel de mon propos, lorsqu'on regarde l'activité de cette instance entre les années, depuis sa création dans les années 50 jusqu'à la fin des années 60 et au début des années 70, on peut dire que, grosso modo, son activité se répartit en deux activités principales. Premièrement, il conserve, et c'est maintenant la principale source de financement, des activités d'enquête locale pour des grands organismes nationaux, ceux que j'ai cités, hein, l'INSERM, l'INSEE, l'INED, etc. Bon. Et les enquêtes, à ce moment-là, c'est quoi? C'est des enquêtes sur le logement sanitaire, c'est des enquêtes sur les conditions de la vie ouvrière, c'est des enquêtes sur les budgets ouvriers, c'est des enquêtes sur la consommation d'alcool chez les ouvriers. Vous voyez, bon, on est même dans la tradition des enquêtes sociales du 19e siècle. Voilà. Donc, ça, c'est une partie très importante des activités. Et cette partie, si j'allais dire, un peu rentable. Hein. C'est des financements qui viennent de Paris et qui assurent le fonctionnement. Et puis, il y a tout un deuxième type de fonctionnement qui est très important. Il va progressivement prendre le relais de ce rôle d'enquête locale pour les organismes nationaux. C'est un rôle, ce sont des travaux, ils vont être demandés soit par le comité d'expansion. Alors je rappelle que Claudius Petit a été président, et le premier président du comité d'expansion. Claudius Petit, c'est la même tradition. Pour le comité d'expansion donc, et pour la préfecture de la Loire. Alors c'est important de noter que le centre va impulser des études jamais sous la commande des collectivités locales. On n'en trouve aucune. Hein, ni le conseil général, ni les municipalités. Hein. Par contre, les financements vont être soit venir du comité d'expansion, soit venir, et principalement, de la préfecture ou des échelons décentralisés des ministères nationaux. Je crois que c'est important à situer pour voir la place qu'occupe le CESAL dans le paysage institutionnel local. Alors, quelles sont les études qui vont être lancées à ce moment-là? Principalement, on va dire deux choses, deux directions principales. Une première direction, ce sont des études sur les secteurs d'activité économique. Donc, on va avoir des études sur la sous-traitance automobile, sur la passementerie, sur la mécanique automobile, des secteurs industriels. Hein. Et puis, ça va être, mais dans la suite, des études plutôt d'aménagement du territoire. Il s'inscrive dans l'idée que de désenclavement et de sorte du bassin stéphanois. Non, on va avoir des études, par exemple, sur les relations entre Lyon et Saint-Étienne, sur les relations entre Saint-Étienne et Rouen, ou des études sur les transports. Vous voyez? Bon. Et petit à petit, ces études vont prendre le pas sur les études proprement industrielles. Les études d'aménagement du territoire vont devenir progressivement de plus en plus nombreuses par rapport aux études sur les secteurs industriels. Mais demeure une activité à la base, il vient des origines donc, de l'immédiat après-guerre, il y a une activité de dénombrement des entreprises sur le département de la Loire. Et il y a un magnifique fichier, il existait, je ne sais pas où il est encore, où il est notamment tenu par André Garnier, avec des fiches, il faisait l'état de la situation de l'emploi dans chacune des entreprises de la Loire. Alors vous voyez bien que ce type de relation de statistiques, de renseignements, progressivement va être pris en charge par d'autres institutions. Donc, on veut dire que pendant les années, la fin des années 50, jusqu'à vers le milieu, vers 1970 à peu près, le CESAL joue un rôle supplétif par rapport à des instances qui progressivement vont se mettre en place après de façon régulière dans, sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment aux agences d'urbanisme. Dans le cadre des travaux sur l'aménagement du territoire, le Sénat a d'abord réalisé des travaux pour le groupe d'études et programmation de la direction départementale de l'équipement, puis après pour l'agence d'urbanisme et pur, puis progressivement, ces instances vont elles-mêmes prendre à leur compte leurs propres travaux et le Sénat va disparaître de ce champ d'activité-là. Donc, il me reste combien de temps ?
5 minutes,
très bien. Donc, à partir ce rôle, si vous voulez, de collecte de données locales et d'analyse statistique faite sur le plan local, avant qu'il existe les départements spécialisés des ministères de l'Emploi, des ministères de la Construction, avant qu'il existe l'agence régionale de l'INSEE, avant de se créer les ORIAM, les organisations régionales d'aménagement des aires métropolitaines, toutes ces instances-là vont progressivement prendre en charge le travail d'enquête préalablement assuré par le FESAL. De telle sorte qu'on peut dire que à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, l'instance fédérale va progressivement se désintéresser, c'est un mot peut-être fort, du niveau local, pour au moins 3 raisons principales. La raison que je viens de dire, à savoir que des organismes d'études se mettent en place de façon officielle et remplissent un rôle que le FESAL avait assuré lorsque ces organismes n'existaient pas. Voilà. Deuxième raison, il me semble relativement anecdotique et conjoncturelle, c'est l'hostilité de plus en plus grande des pouvoirs locaux politiques vis-à-vis de la finance, mais il pèse un peu plus à partir du début des années 70, dans la mesure où les points politiques locaux peuvent contrarier les initiatives que pouvaient prendre auparavant les échelons décentralisés de l'appareil d'État. C'est clair que je dis là. Et ça va s'accentuer avec le fait que de Raffour, devenant ministre du Travail de Giscard d'Estaing, son poids devient considérable. Et de fait, donc, le FESAL ne perd pas les enquêtes qu'il n'a jamais faites pour les collectivités locales, mais perd d'autant plus la possibilité de travailler pour les instances décentralisées des grands ministères. Et puis, troisième raison, me semble-t-il, importante dans l'éloignement du terrain local de l'instance FESAL, c'est le fait que, progressivement, plus le FESAL travaille, plus il embauche, et plus il embauche, moins il embauche des militants qui s'inscrivent dans la tradition, pour dire vite, d'économie et humanisme, et est sa tradition d'origine. Plus il embauche des professionnels issus des formations d'économie et de sociologie. Et plus ces professionnels sont nombreux, et plus ils tentent à faire de l'économie et de la sociologie en termes de recherche et moins en termes d'application locale de travaux qui seraient dirigés d'ailleurs. Et ça correspond en même temps au développement considérable à partir de la fin des années 69, 72, 74, 75, de grandes institutions commanditaires de recherche, le Montaigne, le commissariat du plan à travers le Hordes, Eux maintenant la délégation générale à la recherche scientifique et technique. Eux maintenant le ministère de l'équipement. Donc, si vous voulez, les donneurs d'ordre du Trésor à ce moment-là deviennent des donneurs d'ordre nationaux, mais ils font des commandes en termes de recherche et non plus en termes de collection de statistiques. Et donc, progressivement, le Trésor en quelque sorte, s'éloigne du terrain local. En 1974, il est reconnu comme unité de recherche au CNRS. Et vers la fin des années 70, la plupart de ses salariés seront des salariés du CNRS et il intègre l'université. Alors, j'ai un mot, il faut finir. J'ai une interrogation qui vient au moment de terminer. J'ai fait un parcours très rapide du Trésor en tant qu'instance institutionnelle. Il me vient à l'esprit que sans doute j'aurais pu obtenir des résultats différents si j'avais regardé, si j'avais fait une approche à travers les personnes, à travers les individus qui ont travaillé à un moment ou à un autre au Trésor. Mais vous comprenez bien que, et en tant qu'ancien de cette institution, et surtout en tant que sociologue, c'est pas sur ce terrain-là que je me serais risqué. Merci.